métier, Berlioz n'a connu qu'une gloire posthume après une vie romanesque tout entière dévouée à la musique. Une vocation découverte en 1821 pendant la représentation d'un opéra de Gluck, Iphigénie en Tauride. Berlioz avait alors 18 ans et il était étudiant en médecine.
J'abandonne la médecine, l'anatomie, la charcuterie.
C'est la séance de dissection qui t'a...
Oui, ça et bien d'autres choses. L'opéra, Iphigénie, Gluck, tout. Tout est arrivé d'un coup. Mais ça couvait depuis longtemps. Comment veut-on que j'accepte un destin commun ou banal? Cette musique que tu n'entends pas, je ne peux plus la garder en moi. J'ai pris ma décision.
Je ne serai pas médecin. Non, rien à faire. Je serai musicien. Je serai musicien parce qu'il faut que je sois musicien. Parce que je ne peux pas faire autre chose que d'être musicien. Parce que tout me fera crever d'ennui, de dérision, de désespoir, sauf d'être musicien.
Bonjour.
Bonjour Patrice.
C'est un extrait de La Damnation de Faust, une des œuvres les plus connues de Berlioz. Berlioz, on vous rappelait dans un livre que rien ne le prédisposait à faire de la musique, ni ses études en médecine, ni même son environnement familial. Oui. C'est même contre ses parents qu'il a décidé d'être musicien.
Oui, tout à fait. Son père était médecin de campagne à la côte Saint-André en Isère. Et son père souhaitait tout simplement que Berlioz prenne sa suite, sa succession. Et le père de Berlioz a eu la bonne idée de prendre son fils chez lui pour être son précepteur. Et le père de Berlioz a enseigné à son fils Hector les préceptes de la littérature, de la poésie et aussi de la musique. Il a presque commis une erreur, le père, en enseignant à son fils.
De son point de vue, en tout cas.
Oui, parce que la musique faisait partie des beaux-arts, si vous voulez. Ouais. On enseignait aux enfants la littérature, le latin, la géographie, l'histoire, mais aussi la musique, parce que c'était l'un des beaux-arts.
C'était bien d'aimer la musique, mais c'était pas bien d'être musicien.
Malheureusement, Hector était allé un peu plus loin que son père aurait souhaité, il est devenu musicien.
Alors, il y a eu cet opéra de Gluck en 1821, parce qu'il est à Paris pour faire ses études de médecine, et puis il écoute Gluck et il dit: à moins de m'évanouir, je ne pouvais pas éprouver une impression plus grande. Alors, on sent aussi l'homme passionné. Le sous-titre d'ailleurs de votre livre sur Berlioz, c'est Les deux ailes de l'âme, l'amour et la musique. On l'a entendu sur Les deux ailes de l'âme. Il a fait de la musique par amour et par amour des femmes aussi.
Il est tombé amoureux de la musique de Gluck, effectivement, à Paris en 1821. Il faut savoir que durant toute son enfance et son adolescence à la campagne, il a entendu de la musique, mais uniquement de la musique de chambre, uniquement des romances, uniquement des petites formations. Il a découvert tout au coup à Paris en 1821 le pouvoir de la grande forme, le pouvoir de la symphonie. Enfin, d'abord de l'opéra, le pouvoir de l'orchestre. Et c'est là tout à coup qu'il a compris quel était le pouvoir des instruments, des grandes combinaisons orchestrales et vocales et instrumentales. Parce que Berlioz n'est pas né tout à coup musicien en 1821, c'est pas vrai. Ça germait en lui. Durant 10 ans, durant 15 ans, la musique a bouillonné en lui. C'est tout à coup en 21 qu'il a conçu qu'il pouvait être musicien de profession.
Alors, pouvoir de la musique, pouvoir des femmes aussi, vous racontez, parce qu'il y a eu 4 femmes, hein, je crois, qui ont compté dans sa vie, dont la première a été un amour purement platonique, elle s'appelait Estelle, il l'a rencontrée quand il était gamin, avant même d'arriver à Paris, et puis alors, il pensera toute sa vie, je crois même qu'à la fin de sa vie, 50 ans après, peu de temps avant de mourir, Berlioz ira la voir pour la demander en mariage à 70 ans.
Berlioz avait 12 ans quand il a rencontré Estelle, qui elle avait 18 ans. Évidemment, c'était un amour impossible. Elle éprouvait, elle, par rapport à lui, une espèce d'affection un peu ironique, un peu tendre, mais un petit peu condescendante. Il était fou d'amour pour lui, pour elle, pardon. Elle, évidemment, s'est mariée et est restée un peu cloisonnée dans la région. Elle a eu des enfants, etc. Puis elle est morte, finalement, dans la région. Alors que Berlioz, lui, est parti pour Paris, a mené une vie aventureuse et après de nombreuses batailles, de nombreux amours, il est revenu vers Estelle à la fin de sa vie, 50 ans après, effectivement, et lui a dit: voyez, madame, malgré tous les orages qui ont ravagé ma vie, je vous aime toujours, je vous aime encore et je demande de m'épouser.
C'est magnifique.
Il lui a dit: non, non, monsieur Berlioz, soyez sage. Il y a un tout petit peu, non pas de respect à mon égard, mais un tout petit peu de calme, de timidité. Soyez constant, mais soyez calme. Et puis, aimez-moi, mais de loin.
Alors, il y aura d'autres femmes, hein, Christian Vasselin, vous les rappelez, il y aura une certaine Camille Mock qui va l'abandonner. On y reviendra. Puis alors, surtout, une célèbre comédienne anglaise de l'époque, qui s'appelait Harriet Smithson, très connue en France parce qu'elle a fait découvrir aux Français, longtemps après sa mort, Shakespeare.
Oui, en 1827, effectivement, il y a une troupe de comédiens anglais vient donner Shakespeare à Paris en anglais. C'est important de savoir. Hein, c'était pas une traduction, c'était en anglais, au théâtre de l'Odéon. Et sur scène, il y avait dans le rôle d'Ophélie et de Juliette, Harry Smithson, qui a foudroyé Berlioz et qui a révélé à Berlioz le pouvoir à la fois de l'amour, mais aussi le pouvoir de du drame. Et Berlioz est tombé amoureux à la fois ce jour-là de la comédienne et puis de la pièce de Shakespeare, Hamlet, puis deux jours après, Roméo et Juliette.
Harriet Smithson, que Berlioz rêvait de conquérir, donc quand il a composé son œuvre la plus célèbre, jouée pour la première fois à Paris au printemps 1830, la Symphonie Fantastique.
Vous êtes prié d'assister au concert donné le 18 mai en la salle du Conservatoire de Paris. Œuvre d'Hector Berlioz, dédiée à Harriet Smithson. Bien, allez, on reprend. Monsieur, c'est vous qui amenez le thème principal, l'idée fixe. C'est le visage de la femme. C'est toute l'histoire, tout le drame. Bon, allez, on reprend. 46, 47, 48, 49...
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Hector Berlioz.
Et un extrait de la Symphonie Fantastique, la plus connue des œuvres de Berlioz, la charte du romantisme musical, dites-vous, Christian Vasselin.
Oui, il faut savoir que la symphonie est un genre avant tout allemand. Hein. Haydn a écrit des symphonies, Mozart a écrit des symphonies, Beethoven a écrit des symphonies. Mais en France, on écrit très très peu de symphonies. La symphonie est restée très longtemps un genre mineur. Et quand Berlioz a découvert le pouvoir de la musique instrumentale orchestrale au conservatoire en 1828, grâce aux symphonies de Beethoven, il s'est rendu compte qu'il pouvait lui aussi créer une symphonie. Sa formation musicale jusque-là, c'était avant tout la voix. Les romances écoutées autrefois à l'écoute de Saint-André, l'opéra, découvert à l'opéra, les opéras de Gluck, voire de Cherubini, voire de Méhul, il a tout à coup découvert en 28 que la musique instrumentale, orchestrale, sans la voix, pouvait être puissante. Et là, donc, lui aussi, écrit une symphonie. Et le romantisme, quand il décrit le romantisme, Berlioz, il parle de musique instrumentale expressive. Et c'est justement en ce sens que la musique de Berlioz, instrumentale, est une musique romantique. C'est parce qu'elle exprime, sans les voix, sans les mots, des sentiments passionnés.
Alors, il faut rappeler, hein, Christian Vasselin, que 1830, c'est aussi la fameuse bataille d'Hernani, hein, avec Victor Hugo et les romantiques. C'est aussi la révolution de juillet. Or, Berlioz est un romantique, mais il n'est pas sur les barricades. C'est même pas vraiment un révolutionnaire, sauf en musique.
Oui, bien sûr. Enfin, en 1830 et en 1848, la situation serait un petit peu différente. Oui. En juillet 1830, il est enfermé dans une loge parce qu'il est candidat pour le prix de Rome. Donc, il est enfermé parce que le règlement de l'Institut l'exige. Il est enfermé pour écrire une cantate. La cantate grâce à laquelle, d'ailleurs, il aurait le prix de Rome. Et il sort à la fin des Trois Glorieuses pour se dégourdir les jambes sur les barricades. Mais enfin, pour lui, c'est problème de santé, hein.
Oui, parce qu'on m'avait dit que la Symphonie Fantastique n'était pas, contrairement à ce qu'on a entendu dans l'extrait de téléfilm dédié à Harriet Smithson, mais à Nicolas Ier, un tsar autocrate.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec le...
Tout s'explique. Berlioz était tout à fait opportuniste en politique. Il n'avait aucune opinion précise. Pour lui, la politique était vraiment contingente. La politique, pour lui, avait une seule mission, c'était de créer le silence pour que la musique puisse se faire entendre. C'est tout. Donc, si Nicolas Ier a eu la bonne idée de créer le silence en Russie pour que la musique puisse se faire entendre, il lui dédie une symphonie, c'est très bien. C'est comme ça aussi qu'il a dédié son traité d'instrumentation, au roi de Prusse. Bon. Et donc là, en 1830, il sort sur les barricades, mais c'est uniquement pour se dégourdir les jambes, comme j'ai dit tout à l'heure, après avoir passé 3 semaines enfermé dans une loge pour écrire une cantate.
Et après le triomphe qu'a été en France la Symphonie Fantastique, très bien accueillie, or il s'en va, juste après, et pour un an, il va en Italie, il a reçu le prix de Rome, donc il devient
fonctionnaire
de la ville de Médicis, oui, pour de l'argent, hein, parce que la Symphonie, ça fait pas gagner suffisamment d'argent. Et alors là, il y a un épisode extraordinaire, donc il part amoureux de cette Camille Mock que j'ai évoquée tout à l'heure, il apprend à Rome que Camille Mock l'a plaqué pour épouser Pleyel, et puis il décide de revenir en France, alors qu'il est tenu de rester en Italie, il décide de revenir en France pour tuer Camille Mock et sa mère, carrément. C'est un personnage extravagant.
Effectivement, il faut vraiment lire dans les mémoires de Berlioz ou dans sa correspondance ce qu'il raconte, la manière dont il part, effectivement, dont il prend une diligence, dont il prend des petits flacons de laudanum, dont il prend des pistolets, la manière également dont il prend avec lui un costume de femme de chambre pour se présenter au domicile de l'infidèle et puis l'épouser et la tuer. Enfin, c'est vraiment fou. Hein, c'est vraiment fou.
Mais il s'arrête à Nice.
Mais la bonne idée de s'arrêter in extremis à Nice, qui à l'époque est encore italienne, de manière à ne pas perdre la pension.
Oui, parce que s'il passe la frontière, c'est fini.
Donc il écrit une lettre sur l'honneur au directeur de l'aviation en disant « Je vais rentrer à Rome, c'est promis, je ne franchirai pas la frontière. »
Enfin, il va oublier donc Camille Mock, il épouse Harriet Smithson qui a finalement succombé au charme de Berlioz, avec laquelle il va mener une vie de couple d'ailleurs désastreuse, c'était effrayant, c'était un couple. En fait, il aime bien la conquête, mais une fois que la femme est conquise, qu'elle devient sa femme, c'est fini.
Il est facile de refaire l'histoire, mais je pense qu'il a commis l'erreur d'épouser son rêve. Parce qu'il a rêvé, Harriet au moins autant qu'il l'a vue en 27, il l'a épousée 6 ans après, il était amoureux. Effectivement, il avait un fils, mais très vite, il est parti sur les routes.
Alors, la seule chose qui ramène peut-être d'Italie, parce qu'il n'a pas fait grand-chose à l'époque où il était à la Villa Médicis, il revient quand même avec l'image d'une célèbre statue de Benvenuto Cellini, hein, le Persée qu'on peut voir à Florence. Et là, il décide de composer pour Benvenuto Cellini un opéra. À l'époque, l'opéra, dites-vous, c'est beaucoup plus sérieux, ou c'est pris plus au sérieux que la symphonie. C'est par l'opéra, plus que par la symphonie, qu'on entre vraiment dans le musical.
Dans le panthéon vivant des musiciens à Paris. Effectivement, pour être un musicien fortuné, dans tous les sens du terme à Paris, à l'époque, il faut être soit virtuose, c'est-à-dire chanteur, pianiste, violoniste, comme Liszt ou Chopin ou Paganini le sont, soit compositeur d'opéra. Et il est vrai que des compositeurs comme Meyerbeer, comme Rossini, font fortune à Paris. Ils font vraiment fortune, ils gagnent beaucoup d'argent. Et bien là, il se rend compte que lui aussi, pour s'imposer à Paris, il doit écrire un opéra.
Et ce sera donc Benvenuto Cellini, un opéra de Berlioz, joué en mars 1838 à l'Opéra de Paris. Par Colin Davis, un extrait de Benvenuto Cellini de Berlioz, donné à Paris en septembre, non pas en mars 1838. Et là, alors 8 ans après le triomphe de la symphonie fantastique, l'accueil du public et des critiques n'est plus du tout le même. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, Benvenuto Cellini en 1838 fait scandale. D'abord, avant même sa création, Berlioz va se battre comme un lion pour imposer son œuvre si originale. Alors, pendant les répétitions à l'Opéra de Paris, Berlioz se plaint dans ses mémoires, je cite, de la nonchalance, de l'hostilité générale et même des bêtes venimeuses qui l'entourent, ce sont ces termes. On le regarde, je le cite toujours, comme une espèce de fou dont la musique n'est qu'un tissu d'extravagance. La partition est jugée inexécutable. Des musiciens vont même jusqu'à saboter le travail en jouant l'air de « J'ai du bon tabac dans ma tabatière » dans le grand final. Et les musiciens jouent mal. Berlioz se plaint des millions de fausses notes, de mouvements mal donnés et surtout de rythmes pris à contresens. Un vrai supplice, dit-il. Alors à l'approche de la première, Berlioz s'attend au pire. « Si j'ai un succès, dit-il, ce sera un succès scandaleux et violent. » Et Berlioz compte sur le public indifférent, impartial, et c'est à l'obtenir que je vise. Alors le soir de la première arrive, 10 septembre 1838, et ses ennemis sont dans la salle, prêts à mordre. Avant même le lever du rideau, s'étonne un critique de l'époque, des gens dans la salle disaient que cette musique était absurde, savante, jusqu'à en être inintelligible, que son auteur était perdu à tout jamais, une telle chute, disait-il, était un châtiment bien mérité par tant d'orgueil que de vouloir innover la musique. L'œuvre était bien et dûment condamnée aux flammes avant d'avoir été entendue. Alors ensuite, pendant toute la représentation, on constate toujours ce critique, on entendait des vociférations, cris aigus, sifflets prolongés, exercices de ventriloque, le tout entremêlé d'éclats d'un gros rire. Alors l'hostilité vise moins la musique, hein, parce que personne à Paris n'y connaît rien, que le langage du livret, hein, le langage jugé trop prosaïque, un peu d'ailleurs comme Hernani de Victor Hugo 8 ans plus tôt. Alors le lendemain de la première, des journaux s'enthousiasment, mais d'autres, les journaux satiriques, font des gorges chaudes de l'échec de ce Malvenuto Cellini, un jeu de mots, bien sûr, sur Bienvenue, Benvenuto et Malvenuto, Malvenu. Heureusement, Berlioz a quelques amis, hein, et pas des moindres. Le violoniste Paganini, qui était dans la salle, qui menait les applaudissements. Franz Liszt, le musicien, écrit avec grandiloquence « Honneur à toi, Berlioz. Tu luttes avec un invincible courage. Et si l'envie, la sottise, la perfidie semblent se multiplier autour de toi, ne crains rien, les dieux te sont en aide. » Un autre dieu à lui venir en aide, Victor Hugo, qui écrit à Berlioz, après le Benvenuto Cellini, « Vous avez fait une belle et noble chose. » Chantez, vous qui êtes faits pour chanter, et laissez crier ceux qui sont faits pour crier.
Malgré Victor Hugo ou Paganini ou Liszt, Benvenuto Cellini, c'est un bide, Christian Vasselin.
Oui, c'est un opéra qui serait joué malheureusement 4 fois seulement à Paris à cette époque-là.
C'est beau, on l'a entendu.
Ah, oui. C'est plus que beau, c'est magnifique, effectivement. Mais l'opéra sera repris 14 ans plus tard à Weimar, grâce à Liszt, précisément, oui. Qui était aussi chef d'orchestre.
Mais à l'étranger, par exemple, l'opéra de Paris, il sera interdit de séjour, je crois, jusqu'à sa mort. Je crois même, d'ailleurs, qu'un autre opéra, qui est Les Troyens, n'a été joué en France, à Paris, qu'en 1989.
À l'Opéra de Paris, oui, effectivement. Mais c'est très simple. Berlioz a eu un seul opéra créé à l'Opéra de Paris, c'est Benvenuto Cellini, ouais. C'est tout, hein. Tout le reste a été joué ailleurs, effectivement. Et évidemment, la chute de Benvenuto signe son arrêt de mort en tant que compositeur à Paris. Il s'en rend pas compte, il a 35 ans à l'époque, il s'en rend pas compte, mais on se rend compte aujourd'hui que c'était fini.
Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une coterie contre lui? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu ce qu'on a dit à l'instant. Ouais. Il y avait à la fois la musique, surtout le livret. C'est le livret qui, je crois, a le plus dérangé comme ça. Le public s'attendait à un drame historique un peu pompeux, comme ça, solennel, à la manière de Meyerbeer, et qui a eu droit à une vraie comédie shakespearienne, une vraie comédie qui mélange le drame, la satire, la bouffonnerie, la tragédie, qui est un ouvrage d'art complet, d'art total, mais qui n'était pas du tout dans les formats, comme on dit honteusement aujourd'hui, de l'opéra à l'époque.
Mais c'est étonnant, parce qu'on l'a entendu dans ses textes, il était salué par Liszt, par Paganini, Wagner aussi, qui aimait, il y a eu une brouille avec Wagner, mais il adorait, il aimait Berlioz.
Wagner a eu de la vénération pour Berlioz. De la vénération, Wagner a passé 3 ans dans l'obscurité à Paris dans les années 40-42 et il a assisté à la création de deux grands œuvres de Berlioz qui sont Roméo et Juliette et la Symphonie funèbre triomphale. Et n'oublions pas qu'il a offert un jour une partition de Tristan et Isolde à Berlioz avec une citation où noble et grand auteur de Roméo et Juliette, l'auteur reconnaissant de Tristan et Isolde. C'est pas innocent, vous voyez.
Ouais, Berlioz, en tout cas, a été salué dans toutes les villes où il a précisément rencontré ses musiciens. Où on l'admirait beaucoup, hein, beaucoup plus qu'à Paris, à Londres, à Vienne, à Budapest, à Dresde, et puis alors surtout à Saint-Pétersbourg, où Berlioz arrive en plein hiver, le 28 février 1847. On écoute un autre extrait du téléfilm de Jacques Tributa, La vie de Berlioz, avec Daniel Mesguich dans le rôle de Berlioz.
Berlioz est à Saint-Pétersbourg. Berlioz est parmi nous.
Au Victor Hugo de la musique française, je lève mon verre à Hector Berlioz, dont le traité d'instrumentation a reculé les limites du monde musical.
Messieurs, chers amis, votre accueil me fait douter de la modestie de mon talent et de l'humilité de ma naissance. Les compliments dont vous avez bien voulu me combler, seul un monarque pourrait les mériter. Aussi est-ce gravement et respectueusement que je lève mon verre à la gloire des maîtres vénérés de votre grand pays, au tsar et à la tsarine.
Thank you.
l'orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit, un extrait du Roméo et Juliette de Berlioz, hein, qui a été joué, je crois, pendant son premier voyage en Russie en 1847. Christian Vasselin, il a joué un rôle énorme dans la musique en général, dans la musique russe en particulier. Il n'y avait pas de grands musiciens russes à l'époque où Berlioz est arrivé en Russie au milieu du 19e siècle.
Oui, tout à fait. La musique russe existait à cette époque-là grâce à la musique traditionnelle, grâce à la musique religieuse. Mais les compositeurs de musique savante étaient avant tout des compositeurs italiens ou français d'importation. Boieldieu, par exemple, est venu travailler à la cour de Russie. Et Berlioz est le premier qui a fait comprendre aux musiciens russes, à Glinka en particulier, que les Russes pouvaient être eux aussi des musiciens, mais des musiciens russes.
Il y aura Borodine, il y aura Moussorgski,
oui, effectivement.
Il y aura Rimsky-Korsakov.
Mais Glinka est le premier compositeur russe en lequel Berlioz est deviné un talent spécifique, oui, particulier, je pense qu'on veut dire terrien, si vous voulez. Il a dit à Glinka, mais vous qui êtes russe, faites de la musique russe. Et Glinka il a compris ce que disait Berlioz. Il a été le premier d'une grande lignée de compositeurs russes qui doit quasiment tout à Berlioz.
Un succès considérable en Russie, mais aussi à Londres, mais aussi en Allemagne, en France. Alors lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, Berlioz fonde de grands espoirs sur Napoléon III, qui ne s'adresse pas à lui. Ce qu'on écoute à l'époque comme compositeur français, c'est Offenbach, c'est Meyerbeer, Berlioz ne le connaît pas. Ou presque.
Enfin, Napoléon III, Berlioz, c'est une espèce de fantasme historique et de jeunesse, si vous voulez, parce qu'il a grandi, il est né en 1803, Berlioz, donc un an avant le sacre de Napoléon Ier. Il a grandi dans une espèce de bruit de bataille, comme ça, de la conquête de Napoléon Ier. Il a cru, 40 ans, 50 ans plus tard, que Napoléon III serait lui aussi un grand empereur et qu'il allait protéger les arts comme Napoléon Ier l'avait fait. Et pas du tout. Napoléon III, effectivement, a fait construire un opéra, le Palais Garnier. Enfin, il n'a pas pour autant tellement défendu la musique, surtout pas celle de Berlioz.
Berlioz qui était un novateur. Vous dites que c'est lui qui a inventé le mot festival.
Oui, effectivement. C'est lui le premier en 1840 à l'Opéra de Paris qui a mis festival sur les affiches.
Il a écrit un traité de musique, etc. Il a une fin d'existence, quand même, justement, sous le Second Empire, qui est assez triste. Christian Vasselin, d'abord, il y a sa femme, la mort de sa femme, Henriette, avec laquelle il ne vivait plus parce qu'il avait une autre maîtresse et même d'autres maîtresses. Et puis alors elle meurt. Et puis alors il y a aussi l'échec de l'opéra sur lequel comptait le plus, les Troyens.
Là, c'est le coup le plus dur qu'il a dû subir. Les Troyens, c'est la réalisation 40 ans après d'un rêve de jeunesse. Le père de Berlioz, on en revient toujours au père de Berlioz, a enseigné à son fils le latin. Il lui a fait découvrir à l'âge de 12 ans ce qui était le pouvoir des mots en latin, le pouvoir de l'Énéide de Virgile. Et Berlioz est tombé amoureux de la reine Didon quand il avait 12 ans. Et 40 ans après, cette espèce de rêve d'enfance, de passion d'enfance, est revenu à la surface et il a écrit enfin son opéra, son grand opéra, son opus magnum, dont il a fait la parole et la musique Les Troyens. Et malheureusement, victime une fois de plus des préjugés, de tout ce qu'on peut imaginer, l'opéra a été interdit à l'Opéra de Paris, a été coupé en deux et a été créé partiellement au Théâtre Lyrique, qui était un petit théâtre à l'époque à Paris.
Puis à la mort de son fils Louis aussi, son fils unique, qu'il voyait peu, qui est mort à la Havane, lui il apprend la mort de Louis alors qu'il est à Saint-Pétersbourg.
Alors Louis, effectivement, Louis est mort en 1867, deux ans avant son père, à l'âge de 34 ans, et Louis, il a accompli d'une certaine manière les rêves d'enfance de son père Hector qui souhaitait être marin. Enfin, quand il était petit, Berlioz souhaitait être marin, comme ça, ils n'ont pas médecin ni musicien, d'ailleurs, il souhaitait être marin. Et c'est son propre fils Louis qui a effectué ce rêve.
Et qui est mort en 1867.
De la fièvre jaune à la Havane.
Un an et demi avant la disparition de Berlioz. On écoute un dernier extrait du téléfilm de Jacques Tréboutat, suivi d'un passage de la Symphonie Fantastique, l'œuvre par laquelle Berlioz est entré dans l'histoire de la musique.
La Société Musicale de Russie a le plaisir de vous remettre son diplôme d'honneur, Monsieur Berlioz. Hector, tu as contribué à l'immense développement qu'a atteint la musique de notre temps. La musique qu'on appellera désormais la musique du 19e siècle. Le futur historien, rappelant les étapes par lesquelles est passé notre art, dira maintenant: c'était avant Berlioz ou c'était après Berlioz.
et le bal de la symphonie fantastique. Merci Christian Vasselin d'avoir été avec nous pour parler de Berlioz pour le bicentenaire de sa naissance. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Berlioz, Les deux ailes de l'âme, un livre publié dans l'excellente collection Découverte des éditions Gallimard. Puis beaucoup d'autres publications à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Berlioz. Berlioz, épisode de la vie d'un artiste, un beau livre illustré chez Glénat auquel vous avez participé, Christian Vasselin, ainsi qu'un cahier de Lerne que vous avez dirigé et qui, pour la première fois, cahier de Lerne s'intéresse à un musicien, puisque c'est Berlioz en l'occurrence. Enfin, Sur Berlioz de Romain Rolland, édité chez Complexe. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm La vie de Berlioz de Jacques Tréboutin avec Daniel Mesguiche dans le rôle de Berlioz. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.